Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Je voudrais aujourd'hui imaginer ce que pourrait être un débat philosophique, une discussion philosophique avec des enfants, qu'on pourrait mener autour d'un film de John Ford, grand classique du western, film 1939 qui s'appelle La Chevauchée Fantastique. Alors il me semble qu'on pourrait aborder trois thèmes, trois sujets. Tout d'abord la notion de liberté, deuxièmement la notion de jugement moral, et enfin la notion d'interprétation autour de la question récurrente, qu'est-ce que c'est que comprendre un film ? Alors, première question, est-ce que les personnages du film sont libres ? On pourrait demander à des enfants de réfléchir sur cette question. La Chevauchée Fantastique, c'est en effet un film où la notion de choix, de décision sont absolument centrales. Le film va nous montrer la manière dont des individus vont construire leurs décisions et construire leur avenir dans un réseau très fort de contraintes. Donc il y a une dimension un petit peu sartrienne ici. Hein. Comment être libre malgré et peut-être même grâce aux contraintes. Alors les contraintes, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord les déterminismes sociaux. Puisque le film nous montre en fait d'abord le poids de la norme, des normes sociales, de la manière dont les individus sont englués dans des normes, et le tout début du film montre la façon dont une ville, Tonto, exclut en fait les individus qui ne sont pas conformes à cette norme. La Ligue de l'Ordre et de la Vertu, eh bien, elle exclut de la ville Dallas, la prostituée, et le Dr Boone parce qu'il est alcoolique, et donc il y a vraiment cette idée d'un corps social qui se débarrasse des éléments gênants. Et puis les déterminismes sociaux, ils apparaissent aussi dans le film, dans le poids de l'enfance en fait, hein, et dans les déterminismes qui nous viennent de nos traumatismes enfantins. Et là, ça renvoie au dialogue au clair de lune entre Dallas, justement, la prostituée, et puis Ringo Kid, interprété par John Wayne, qui évoque tous les deux, en fait, leurs enfants se meurtrient, qui les ont sans doute amenés sur un chemin un peu compliqué. Le deuxième réseau de contraintes, c'est le poids du hasard. Peut-être même du destin. Et ça, c'est un autre problème. Alors, le hasard et le destin, dans La Chevauchée Fantastique, s'incarnent, par exemple, dans un chat noir qui passe juste avant le gunfight final. Il passe aussi par l'aléa des trajectoires des flèches des Indiens, puisque les Indiens tirent sur la diligence, mais bien sûr, les flèches frappent au hasard. Ce thème du destin et du hasard s'incarne aussi dans le thème du jeu. Par exemple, lors de la première halte de la diligence, Hatfield, le joueur, il tire au sort sa décision. Tous les personnages votent, est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on rebrouche chemin ? Et puis lui, quand il doit décider, il sort une carte et puis finalement c'est la carte qui décide pour lui. Alors la carte, ça renvoie à un livre que je vous conseille fortement de lire qui s'appelle Les Cartes de l'Ouest. C'est un livre qui a été écrit par deux grands spécialistes du western que sont Suzanne Liandra-Guig et Jean-Louis Letra. Ce livre propose notamment une analyse de ce film, La Chevauchée Fantastique, et qui nous montre comment en fait ce film propose des allusions à la légende de l'Ouest. Et par exemple, on va voir que Hatfield, le joueur, juste avant de prendre une décision, il a la donne du mort. Ce qu'on appelle la donne du mort, c'est deux huit noirs et deux as noirs. C'est la donne qu'avait Wild Bill Hickok avant de mourir, hein, le légendaire westerner. Et donc voilà, il y a des allusions comme ça un petit peu cachées à l'histoire de l'Ouest. Et puis surtout, de manière plus directe, jouer aux cartes, c'est faire des choix, c'est avoir des partenaires, des adversaires. Et tout le film, en fait, va parler de ça, faire des choix, avoir des partenaires et des adversaires.
Mon avis est qu'en continuant, on serait ce soir à Bashwells. Les soldats pourront peut-être nous escorter jusqu'à Ferry. Et de là, il sera facile d'atteindre Lansbourg.
Oui, c'est vrai.
Nous sommes quatre qui pouvons tenir un fusil. Cinq avec toi, Ringo. Le docteur tire bien quand il est à jeun.
Si je tire bien, comptez sur moi.
Madame Mallory, je ne voudrais pas conduire une dame au danger sans l'en avoir averti.
J'ai fait des voyages aussi périlleux. Je demande une chose, rejoindre mon mari au plus tôt. Je ne veux pas être séparée de lui plus longtemps.
Votre opinion, monsieur?
Soyez galant, Curly. Allons consulter l'autre dame.
Qu'est-ce que vous en dites?
Ça n'a aucune importance. Ça m'est égal.
Je vote pour le voyage. Non seulement je le demande, mais je l'exige. C'est mon droit. Et vous, Redfield?
Lordsburg.
Le deuxième thème qu'on pourrait aborder serait celui de la... du jugement moral et peut-être de la relativité du jugement moral. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que Ford, comme souvent, refuse tout manichéisme. Par exemple, les personnages les plus sympathiques du film, que sont justement Dallas et Dr. Boone, sont ceux qui sont chassés au début du film par la Ligue de l'Ordre et de la Vertu. Et d'ailleurs, ces femmes de la Ligue de l'Ordre et de la Vertu, eh bien Ford les filme comme des rapaces, hein, il fait tout pour nous les rendre antipathiques, alors qu'elles sont censées... être garante de la bonne morale et des bonnes mœurs. Donc Ford ici se moque des pharisiens, des hypocrites, et il s'en moque juste par la façon de les filmer. En fait, il n'y a pas besoin de grands discours, la caméra elle-même ici fait son travail. Et à l'inverse, le personnage le plus antipathique de ceux qui vont voyager dans la diligence, eh bien c'est celui qui aurait l'apparence la plus respectable, puisque c'est le banquier. Et qui est en fait un voleur, mais enfin c'est quand même le banquier. Et le banquier, eh bien, il est prompt à juger, hein, tout le long du film. Il tient des discours très, très culpabilisants, très, très réactionnaires d'ailleurs. Il a des avis très tranchés. Et il considère même d'ailleurs que les gens de mauvaise vie, que sont pour lui une prostituée par exemple, eh bien, ils n'ont pas droit au bonheur. Et cette question du droit au bonheur, elle est intéressante aussi dans le film. Alors entre ces deux pôles, du personnage peut-être le plus sympathique, que serait par exemple l'alcoolique Dr. Boone, et puis du plus antipathique, que serait le banquier, il y a tout un tas de personnages plus ambigus. Ringo Kidd, par exemple, qui est interprété par John Wayne, c'est un évadé de prison, mais à la fois son désir de vengeance nous semble légitime tout au long du film. Peacock est un représentant whisky, mais on le prend pour un révérend tout le long du film, ce qui est assez amusant. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut peut-être se méfier des apparences et que les personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être. Hatfield, c'est un personnage magnifique, hein, joué par John Carradine. Hatfield, c'est le joueur, c'est un des personnages les plus ambigus du film, les plus indéchiffrables. Il est à la fois élégant, séduisant, sulfureux. Et c'est un personnage tout à fait central, hein, du cinéma de John Ford. Et puis surtout, un personnage très intéressant aussi, c'est Mademoiselle Mallory. Madame Mallory, même, puisqu'elle est mariée, même si elle est très jeune, qui est enceinte, qui va accoucher pendant la trajectoire. Et ce qui est intéressant, c'est que son point de vue sur la vie et sur ses compagnons de route va évoluer pendant le film. Au début, justement, eh bien, elle le juge. Elle juge la prostituée, elle juge le bandit. Et puis, petit à petit, elle va découvrir la complexité des choses. Ce voyage va être pour elle initiatique, puisqu'elle va se rendre compte que la réalité est peut-être plus ambiguë que ce qu'elle le pensait. Et cette découverte de la complexité, Ford, de manière très subtile, l'exprime par la différence entre les deux villes du film, puisqu'il y a la ville dont on part et la ville où on arrive. Alors la première ville, eh bien, elle est linéaire. Il fait jour, il n'y a qu'une rue. On est dans le monde de l'évidence. Il y a le vice, la vertu, voilà, tout est clair, apparemment. Et dans la ville où on arrive, alors par contre, on y arrive de nuit, on ne voit pas très bien les espaces, il y a beaucoup de rues, c'est presque un labyrinthe. Donc cette ville, elle est construite par Ford comme une superposition à la fois de lieux, hein, de lieux complexes, et puis de musique diégétique, des musiques qui sortent des saloons. Et ce mélange de musique nous montre justement la complexité des choses et peut-être la difficulté à porter des jugements. Et cette remarque nous conduit à la troisième question, finalement, qu'on pourrait aborder encore une fois avec des enfants après avoir vu La Chevauchée Fantastique. C'est la question de savoir qu'est-ce que comprend un film.
Oh, voiture pour Apache Wells, Lee's Ferry.
C'est prêt, on a changé les chevaux, il faut prendre la route.
Et Lordsburg, peut-être.
Allons-y quand même. Madame Piquette, dites d'Henri de laisser la barrière ouverte. Merci.
Soyez tranquille, ce sera fait.
Allons, vite, ne perdons pas de temps.
Alors, comprendre un film, il y a sans doute plusieurs axes pour essayer, en tout cas, de comprendre quelque chose. Et ici, ben justement, il y a plusieurs axes qui se croisent dans le film. Et d'ailleurs, le thème du croisement lui-même, le thème du croisement est central. Alors d'abord, on a proposé des interprétations allégoriques du film. La diligence serait en fait l'allégorie de l'Amérique elle-même. Une nation d'exilés qui se construit dans la violence et dans l'opposition avec des forces sauvages, des forces naturelles qui seraient ici incarnées par les Indiens. On pourrait aussi proposer une autre interprétation qui verrait en fait tous les personnages de la diligence comme un condensé d'humanité. Ici, ça renverrait peut-être plutôt au Sartre de huis clos, hein, et à la fameuse dernière phrase « L'enfer, c'est les autres ». Effectivement, dans ce petit espace qu'est la diligence, c'est le regard de l'autre qui va dévoiler ce que chacun voudrait cacher. Et les évolutions de chacun des personnages vont être relatives au vernis social qui va se craqueler, qui va craquer sous la pression des événements. Et donc on pourrait là encore amener les enfants à réfléchir sur la façon dont Ford construit les personnages. Par exemple, le personnage de Ringo Kid, interprété par John Wayne, tout le long du film, on ne sait pas trop s'il est prisonnier ou pas finalement. Est-ce qu'il est prisonnier ? C'est une question qui n'est pas tranchée. Construction aussi intéressante par rapport à l'histoire du cinéma, puisque il y a une inversion du cliché sur la blonde et la brune. Très souvent dans les westerns, on l'avait vu par exemple avec Le train sifflera trois fois, la blonde incarne la pureté morale et puis la brune incarne les personnages plus sulfureux. Ici, c'est le contraire. Et c'est peut-être une manière d'accentuer la complexité, encore une fois, hein, puisque Dallas est blonde et Madame Mallory est brune. Intérêt aussi de porter l'attention sur le traitement des Indiens. Alors, les Indiens apparaissent assez peu dans le film, finalement. Ils apparaissent, par exemple, sous la figure de la femme apache dans un des arrêts de la diligence, qui, à la fois, est celle qui chante une chanson très douce pendant l'accouchement, et puis qui va trahir aussi le groupe le lendemain en s'enfuyant. Les autres Indiens, par contre, eux, ils sont traités comme des purs projectiles lors de la séquence de l'attaque. Ils sont réduits, finalement, à des puissances plastiques, finalement, plus qu'humaines. Et justement, en parlant de puissances plastiques, on peut aussi amener les enfants à être attentifs à la façon dont John Ford construit ses plans, et notamment à l'usage du surcadrage. La diligence, forcément, avec ses fenêtres, ses portes, etc., elle se prête au surcadrage. Et le surcadrage, il met l'accent justement sur l'isolement des personnages, sur les différences sociales. Autre aspect intéressant, c'est la tension permanente dans ce film entre l'espace confiné, l'espace clos, étouffant de la diligence, et puis les grands espaces de Monument Valley, puisque c'est le premier film que John Ford va tourner à Monument Valley. Autre plan d'interprétation intéressant, du point de vue toujours d'une approche plastique, c'est la figure du triangle. C'est être attentif, notamment à la fameuse scène où les personnages vont voter pour savoir s'ils continuent le chemin aussi, ou s'ils reviennent au point de départ. La figure du triangle formée par la table, par le plafond, etc. Et puis un fondu enchaîné très intéressant qui va nous amener justement du triangle de la table où on a discuté, à la bifurcation des chemins, avec toujours, comme je le disais, ce thème du croisement, du choix crucial, hein, au sens strict. Alors la profondeur de champ aussi est un plan très important du film, notamment dans toute la séquence autour de l'accouchement de Madame Mallory, justement, qui accouche de son bébé. Et là, Ford joue beaucoup avec la lumière et avec la profondeur des couloirs. Hein, et le couloir, là aussi, c'est un lieu de passage, c'est le lieu du changement, le couloir. On peut par exemple être attentif ici aux plans qui sont placés par Ford juste avant la discussion au clair de lune entre Dallas et Ringo Kid que j'évoquais tout à l'heure. Le dernier axe, peut-être un peu plus complexe d'interprétation du film, ça serait de mettre l'accent sur l'intertextualité, c'est-à-dire sur la façon dont le film se réfère à d'autres films par des allusions plus ou moins directes et aussi par la façon dont le film va influencer d'autres films. Alors là aussi, en lisant Les Cartes de l'Ouest, le livre que je citais tout à l'heure, j'ai appris quelque chose que j'ignorais, c'est qu'à un moment, le Dr Boone provoque Hatfield, le joueur, en lui parlant d'un homme qui a été récemment tué d'une balle dans le dos. Et dans le film, ça fait pas beaucoup sens, et en fait, en lisant Les Cartes de l'Ouest, j'ai appris que la même année, John Carradine, donc, qui joue Hatfield, avait interprété Robert Ford qui avait tué Jesse James d'une balle dans le dos. C'est comme si ici les films s'entremêlaient, comme si chaque acteur en fait amenait dans le film sa propre filmographie et l'épaisseur de ses personnages précédents.
Il empeste ce cigare. Vous accommodez, madame, c'est un certain sans gêne.
Excusez-moi, madame. J'aime tellement la fumée qu'il m'arrive d'oublier qu'elle est désagréable aux autres.
Un gentleman ne fume pas sans y être autorisé.
Il y a à peine 8 jours, j'ai dû opérer un homme blessé par un autre que vous auriez appelé un gentleman. La balle avait pénétré par le dos.
Je voulais vous insinuer.
Restez assis, monsieur.
Lors de la prochaine chronique, nous resterons toujours sur cette question de la philosophie westernienne avec des enfants. Et j'évoquerai un autre grand classique de l'histoire du western, un film d'Howard Hawks, cette fois-ci de 1959, qui s'appelle Rio Bravo.
Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les 2e et 4e dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.